Tous ensemble et en même temps, des milliers de pauvres journalistes vont dire les mêmes choses et montrer les mêmes choses qui se résument à trois lettres. DSK. Alors si vous avez quelque chose d'un peu ragoûtant à faire passer, une enquête, une loi, eh bien profitez-en. Tout le monde regarde ailleurs. Par contre, si vous devez mourir, eh bien attendez demain. Aujourd'hui, personne ne parlera de vous, c'est sûr. L'affaire DSK remue profondément le cocotier médiatique et le cocotier national. C'est une occasion de mesurer l'état du machisme ambiant et de la goujaterie de nos donneurs de leçons. C'est aussi une occasion d'assister à une belle démonstration de tartufferie médiatique que les grands patrons de presse pratiquent depuis fort longtemps, depuis que la presse existe. Ça consiste à faire la morale d'une main et de l'autre à caresser la queue du cochon qui sommeille, comme dans ces enquêtes où l'on dénonce l'horreur de la prostitution en donnant force, détail, tarif, adresse et position. Pourquoi je dis ça? Parce que le 16 décembre 2010, là-bas, si j'y suis, vous a présenté un reportage qui se passait au Kivu, dans le nord-est du Congo, dans un village où nous étions rendus avec Guy Vanktil, un village qui s'appelle Luvungi, où on a enregistré les témoignages de femmes qui, entre le 30 juillet et le 3 août, en l'espace de 3 jours, ont été violées massivement. 200 femmes ont été violées dans ce petit village du Kivu. On en avait parlé, on a dû recevoir un ou deux messages de compassion et de stupeur sur le répondeur de la base « J'y suis ». J'ai entre les mains un livre de Louis Guinamard qui s'appelle « Survivantes sur les femmes violées dans la guerre en République démocratique du Congo » et qui fait état, depuis 1996, de 200 000 cas de viol de femmes. Que je sache, ce livre n'a pas beaucoup d'écho. Il est édité par le Secours catholique et par Caritas. Voilà, des rapprochements que l'on peut faire. On peut faire aussi d'autres rapprochements dans cette affaire DSK. Un rapprochement entre l'Amérique et nous. Ce vieux rapport de vassalité et d'admiration, de rejet et de fascination entre les États-Unis et notre petite et charmante hexagone. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est que ça s'entend dans la chanson française, dans la façon dont la chanson en France parle de l'Amérique. Alors, comme aujourd'hui, on risque d'être interrompu par nos confrères pour avoir des nouvelles de ce qui se passe à New York, eh bien on va consacrer cette heure à l'Amérique vue par la chanson française. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Allô, bonjour Daniel. J'appelle parce que je viens d'entendre le message d'une auditrice sur le répondeur à propos de la vente présumée, de la soi-disant vente des dunes de Cabo Polonio en Uruguay. Et je voulais faire deux précisions. La première, c'est un détail. C'est le président uruguayen s'appelle José Mujica et non pas Eduardo, mais bon, ceci est accessoire. Ce qui est plus important de préciser est que si, je dis bien, si des fractions de cette zone sont finalement désaffectés du patrimoine naturel, c'est pour les confier à l'Institut National de Colonisation, qui est un organisme chargé de distribuer des terres à des paysans qui n'en ont pas, et surtout pas à des touristes plus ou moins fortunés. Je me demande d'ailleurs si les promoteurs de la pétition, parce que l'auditrice a fait mention d'une pétition qui est partie d'Espagne apparemment, ne seraient pas eux-mêmes des touristes, comme on en voit beaucoup qui viennent d'Europe ou d'ailleurs, et qui craignent éventuellement de voir le joli paysage agreste dont ils se délectent en été, peuplé d'indésirables agriculteurs. Bref, la nature est si belle, et les paysans sont si moches, n'est-ce pas? Allez, au revoir, salut à tous.
Bonjour à tous et à tous. À Anduze, dans le Gard, nous avons un café repas.